Europe 1.
Hey, tonton !
Verveine, verveine.
What's happening ? What's happening ?
Hey ! Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute transmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, une immense vedette, une vraie star. Il n'y a pas beaucoup de vraies stars en France, une vraie star. Je reçois Kalash et Kalash, c'est ça.
Allô, la terre ici, y a pas d'eau. Jaloux comme un son de fromage.
Kalash, c'est aussi ça. Et Kalash, c'est ça. Bienvenue sur Europe 1, Kalash.
Merci, Molo.
Quel plaisir de t'avoir avec nous. Là, on vient d'écouter un extrait de Tombolo. Tombolo, c'est un mot d'origine italienne qui désigne une langue de sable qui relie à travers les eaux deux étendues terrestres, une île et la côte, par exemple. Mm-hmm. L'un des plus célèbres Tombolo du monde est celui qui permet, en Normandie, de rejoindre le Mont Saint-Michel à pied sec. Dis donc, Kalash, quel knowledge.
Et ouais.
Et c'est un endroit en Martinique.
Tu sais que j'ai appris ça en choisissant Tombolo comme nom d'album, car pour moi le Tombolo c'était que à Sainte-Marie en Martinique. Mm-hmm. Depuis tout petit on allait au Tombolo, donc pour moi c'était le, comme tu dis, la langue de sable qui unit la côte à l'îlet. Et en vrai, j'ai vu que c'est un mot italien où il y a des Tombolos partout dans le monde, quoi.
Kalash, avant que tu arrives, j'ai dit qu'une vraie star était dans les studios. Et c'est vrai, tu fais partie des rares stars en France, dans le sens où quand Kalash arrive dans une pièce, l'atmosphère change. Kalash, t'es né à Strasbourg le 12 juin 88.
Ouais.
T'es resté 2 mois, puis t'es reparti en Martinique.
Ouais.
Ton père est professeur de philosophie.
Ouais, il était professeur de philosophie.
Il était papé à son âme. Ta
non,
mère...
il est pas
ah,
mort.
Pardon, oh là là.
Non, t'inquiète. Il était prof de philo, il est à la retraite.
Ok, pardon, bah on embrasse ton papa.
Ben oui, papa.
On embrasse très très fort ton papa. Maman, infirmière,
ouais.
Tu dis que tu n'es pas aussi heureux à Paris qu'en Martinique.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas à Paris, en France?
Il y a tout, il y a mon ADN, il y a ma famille, mes enfants, ma mère, mes amis, là où j'ai grandi, mon oxygène, quoi. Donc je peux pas être aussi heureux en France ou même dans un autre pays, hein, qu'en Martinique.
Cet album, pour moi, c'est ce qui est marrant quand j'écoute cet album, j'ai l'impression que tu as la bénédiction et la malédiction des artistes qui sont tout de suite 100% complets. C'est-à-dire que ton premier album a mis tout le monde d'accord tout de suite. Et souvent, les artistes qui arrivent avec une proposition très forte tout de suite refont le premier album en deuxième album. Et après, dans le deuxième album, il y a un grand tube et on leur demande de refaire le grand tube. Et là, c'est un nouveau premier album. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que pendant que je faisais, je me disais, on dirait que je suis en train de refaire le premier. Mmh. Dans l'excitation et le plaisir de faire l'album, quoi. Mais il y a aussi, comme tu dis, la pression des albums d'avant, quand tu sors un Chaos, un Bendo, juste après tu sors un Mwakamoun, tout le monde veut un Mwakamoun, quoi. Mm. Le label, les médias, le public te demandent un Mwakamoun, c'est pas des choses que tu peux faire sur commande, quoi. Mais là, c'est vrai que celui-ci, je l'ai fait comme un premier album, avec la même excitation durant la création, quoi.
Est-ce que le mot commande, c'est quelque chose qui marche avec toi?
Ça marche pas. J'ai tenté beaucoup de fois de faire des choses selon certains formats, calibrés d'une certaine façon. Ça n'a jamais marché, les commandes. Jamais.
Je parlais avant du mot star. Pourquoi, pour toi, c'est qui les stars? C'est quoi les stars qui t'ont bercé? Et c'est pour, est-ce qu'il reste des stars?
Ben, je comprends quand tu la différence que tu fais. Pour moi, les stars de mon adolescence ou mon enfance, c'était des personnages surtout, des gens très talentueux, mais des personnages bien sûr comme Michael Jackson, Busta Rhymes, Joey Starr par exemple. Pour moi, c'était la rock star française. Ouais, c'est des mecs comme ça. C'est des gens qui ont un charisme, que ce soit en bien ou en mal, mais ça reste des rockstars. Et souvent, les rockstars, il y a beaucoup de négatifs dedans.
Est-ce que toi, rencontrer tes idoles, c'est quelque chose qui t'a déçu? Parce que t'es le seul artiste qui a fité avec les plus grands. Littéralement, les plus grands du rap français, les plus grands du reggae, du raga, les plus grands.
J'ai rarement été déçu. J'ai rarement été déçu. Et souvent, ça a été des rencontres qui ont suivi de vécu, de show ensemble, de voyage ensemble, de choses hors musique, hors studio. Donc j'ai rarement été déçu. J'ai juste compris que c'est des êtres humains comme moi avec des problèmes aussi, des états d'âme, une vision souvent en commune. Et il y en a avec qui c'est, les liens sont restés intacts, d'autres se sont séparés, mais j'ai pas de déception. Hein.
Aujourd'hui, cet album, il est, tu le dis, conçu comme un premier album. Dans quel état on se met quand on se dit, ok, là je suis face à un nouveau challenge, à un public qui me connaît énormément et avec quelque chose de décisif?
Je me dis, déjà quand je commence en plein Covid, et je commence avant le Covid arrive, donc ma vision des choses change complètement. Je pense que les gens ressentent la musique différemment, les gens demandent beaucoup. Je commence l'album en me disant, faut que j'arrête de réfléchir à des formats, à me mettre une pression. Donc je fais l'album en oubliant Macamoon, en oubliant Rouge et Bleu, Tekken, etc. Je me dis, faut que je refasse un album où vraiment les gens sentent que je me suis amusé et que je sois déjà moins fier d'écouter l'album de A à Z. Et ce qui est super, c'est que le label m'a donné vraiment, vraiment carte blanche à tout niveau. Le choix des singles, le choix des sons, des feats. C'est vraiment.
Il y a aussi, je trouve, dans cet album un rapport à la sincérité. Ouais. Pour moi, les grands artistes, c'est ceux qui arrivent te dire, quand tu les écoutes, tu sais à quelle période de la vie ils l'ont enregistré. Mmh. On parlait de Michael Jackson, on sait quand il a fait Off the Wall, on sait quand il a fait History. Quand on écoute cet album-là, on se dit, ok, on est face à un calage qui n'est plus le calage de la rue des premiers albums. Mais qui se traîne cette rue avec lui, parce que ça ne te quitte pas, et surtout qu'il y a d'autres problèmes. Comme le disait Biggie, more money, more problem. et là, on voit que dans ces problèmes en plus, il y a les problèmes de santé mentale, il y a la dépression.
Ouais. Ben, je trouve que c'est les plus gros problèmes, en vrai. Tu sais, des fois, tu as des problèmes qui commencent plus jeunes, de rue ou de clash. Mais quand certains problèmes arrivent, comme la santé physique ou mentale, tu dis vraiment, ça, c'est le plus important à conserver, c'est vraiment la santé mentale et physique. Et quand ça t'arrive à toi, tu dis que tu paierais cher pour faire quelque part en arrière et changer quelques trucs dans ta façon de vivre, ton hygiène de vie, dans ta façon de gérer ta carrière, les après-shows, la façon de vivre, quoi.
On en parlait avec Burna Boy qui lui disait, voilà, moi je me retrouve devant des salles avec un nombre d'humains incroyable et quand je rentre, je suis tout seul et je lui demandais comment lui il tenait. Il répondait qu'il avait sa mère, qui était tout le temps avec lui, tout le temps sa mère. Toi, à quoi tu te raccroches?
Moi, je me raccroche à ma femme.
Et qui est là, d'ailleurs.
Qui est là, et qui est mon manager. Et je me raccroche aussi à ma foi. J'ai foi. Donc, ma femme me donne espoir en me disant que ça ira mieux, que ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Quand je dis s'arrêter, c'est-à-dire la vie, je ne parle pas de la musique. Donc, je me raccroche à ma femme, ce qui m'épaule, et à ma foi.
Et est-ce qu'il se fait bien de savoir craquer, des fois?
J'ai appris à craquer il y a quelques années, mais quand tu commences à craquer, après ça devient genre habituel. C'est-à-dire les émotions, c'est comme ça que tu peux faire un album où tu peux parler de choses sans avec moins de pudeur et moins de je dirais honte, c'est pas de la honte, mais moins de retenue, quoi. Tu apprends à te livrer et ça fait du bien, et c'est là que tu découvres des gens autour de toi qui étaient là tout le temps mais qui n'ont jamais osé te dire certains trucs, et en t'entendant le dire, ils se disent, ah ben je peux lui dire en fait que je prends tel médicament, je suis suivi. Il y a un tabou qui tombe à partir de ce moment-là.
Est-ce que, comme le dirait Kerry James, hardcore comme reconnaître ses torts?
Ouais. C'est l'une des choses qui me semblait être les plus hardcore, mais qui me semble en fait la plus humble et la plus noble maintenant. Reconnaître ses torts, c'est pas égoïste de dire ça, mais ça me soulage avant tout moi. Et c'est respectueux pour la personne que tu as sûrement blessée, quoi.
En tout cas, cet album, comme on le dit, quand on a moins de mon âge, c'est une masterclass. Et on va écouter le morceau Masterclass.
Yeah.
C'est fou comme la vie est trop laide dans la ville. La mort est belle, une fois sur la colline. T'as beau aimer les gens, mais pour les diamants, t'oublies qui est mort dans la mine. Oh ouais. Ça te rappelle un flow, c'est normal, je suis un rugby.
Les Caraïbes,
Dieu. Est plus fort qu'un Messi, que des lucarnes, son tir est précis. J'suis 9-7-2, j'ai des amis dans le 7-5. Ça fume la bœuf, ça boit tout en sec. Je prie Jésus, Jéhovah, Allah, même pas Bouddha. J'dis pas que c'est mieux, c'est juste que j'connais pas.
Ils viennent chez moi chercher esclaves et cocaïne.
Tu payes pas, j't'en fais le visage à l'acide.
chaque femme est belle. J'ai pas compté Marine. Nique sa mère, son père, sa sœur et tous ceux qui la suivent. Elles m'ont dégoûté, je dis plus I love you. Tu passes trop de temps sur YouTube. Peu importe s'ils me vaccinent, mais sache que moi je resterai un malade à vie. Ce soir est un masterclass, il y avait un cop ou deux. Mais je suis juste un blédard, alors je suis d'une autre espèce. C'est vrai, mais je mérite mon succès. Moi comme Moon, j'ai fait bugger la snap. J'aime ma classe, c'est quoi le problème, ta mère la pute. Elle est blanche, y'a quoi, je mets du noir sous son fut. Je suis un prophète, même mon avis n'est pas si important, je n'ai aucun pouvoir sur la vie. Je suis pas chrétien, je suis pas athée. Je crois en une force qui m'empêche d'être un raté. Judas a tué Jésus après bisous. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis bonjour. Elles m'ont dégoûté, je dis plus I love you. Tellement que ça n'a que très peu d'amour.
On vient d'écouter Masterclass de Kalash sur Europe 1. Tu dis j'ai plus de Xanax que d'amis. C'est une phrase que tu dis que tu voulais pas la garder à l'origine.
Non.
Ouais.
Je voulais pas la garder parce que j'avais l'impression que ça aurait été comme certains. Tu sais, il y a une vague d'artistes aux États-Unis qui parle beaucoup de pills et tout. Et je me suis dit que ça aurait peut-être sonné comme de l'incitation. Certains se seraient dit ah, il arrive à faire de tels sons ou avoir un certain succès par rapport à une consommation de Xanax. Et en vrai, on m'a convaincu et j'ai été d'accord avec ça. C'est plutôt genre, quand tu sens l'ambiance du morceau et que tu écoutes l'album, tu te dis que c'est pas du tout une incitation à consommer du Xanax. C'est plutôt, je me livre pour t'expliquer que ça fait partie des trucs qu'on te prescrit pour tenir ou pour passer certaines crises, mais c'est pas du tout une incitation. Mais ouais, j'avais du mal à garder cette phrase. Pour pas que les jeunes se disent « Ah ouais, je vais prendre des pills, des cachets et tout. »
La France, c'est un pays qui a un des nombreux records de consommateurs d'antidépresseurs.
Ce que j'ai appris, ouais.
Comment est-ce que toi, t'es tombé dedans ?
Moi, ça s'est fait après plusieurs crises d'angoisse, de panique, que je pensais être des... Ben ça, tu penses que c'est une crise cardiaque, hein ? Donc tu vas à l'hôpital, on te dit que t'es en pleine forme, on te dit que ton cœur, on m'a dit que j'ai le cœur du Saint-Bolt. Il y a plein de médecins qui m'ont dit ça. Les poumons, le cerveau est parfait et on te dit « Bon, ben, prends du Xanax, tu sais, c'est une facilité. » Prendre du Xanax, ça va te calmer, tu vois. Et au fur et à mesure, t'en prends un, deux par jour, trois, et puis ça devient une habitude. Et au final, c'est comme un placebo, hein. Ça sert plus à rien, mais il y a quand même le réflexe de le prendre, de toujours l'avoir, quoi.
On est avec Kalash dans Verven Underground. Ne bougez pas, on revient dans un instant.
Mouloud Achour, 20h, 22h.
Verven Underground.
Underground
sur Europe 1.
De retour dans Verven Underground sur Europe 1, on est toujours avec Kalash. Qu'est-ce que t'as conseillé à la jeunesse partager ton expérience.
C'est pas, je sais pas si c'est ce qui pourrait changer au des gens, mais de prendre de la distance avec l'enfer, c'est-à-dire l'omniprésence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'esclavage des réseaux sociaux, toujours avoir la main, le regard dessus, pas profiter des moments, être esclave du regard, des likes, des notifs, de quelque chose se passe, sortir le téléphone, de prendre un peu de recul, de vivre un peu la vraie vie, de respirer le vrai oxygène que plutôt celui des stories et des snaps. Je trouve que les jeunes s'angoisse beaucoup par rapport à ça. Il y a une grosse anxiété, beaucoup de pression sur les jeunes par rapport à ça.
Est-ce qu'on peut parler de ton téléphone 30 secondes ?
Ouais.
Parce que moi, j'ai une fois, on s'est côtoyé à une soirée. Ouais. Tu étais d'ailleurs avec ta femme. Et je t'ai vu utiliser ton téléphone. Et je t'ai pas vu une seule fois sur les réseaux. Et c'était un ordinateur de poche, en fait, ton téléphone.
Ouais.
Tu l'utilises vraiment pour travailler. Et c'est vrai qu'on oublie que ces appareils-là, qui sont bourrés de technologie, qui sont capables de tout faire, en fait, on les utilise à seulement 5% de leur potentiel.
Ouais.
Et toi, c'était ton bureau. Je te voyais faire des audios, écouter des sons, renvoyer un truc, écrire un texte.
Ouais, ben j'ai appris, même jusqu'à maintenant, j'apprends des fonctions sur le téléphone, comme m'enregistrer. Pendant le Covid, les studios, à un moment vraiment au début, c'était fermé. Et c'était vraiment, on avait tous la phobie de sortir. Donc, j'enregistrais sur le téléphone, je découvre avec le téléphone, je pouvais faire utiliser un dictaphone, faire des montages vidéo, donc ouais, j'ai appris certaines choses, ouais, mais sinon le téléphone, sinon c'est que Instagram, Snap et WhatsApp, quoi.
Donc t'es encore accro au réseau?
Franchement, ouais, je vais pas mentir, ouais, je regarde les... En plus, en période d'album comme ça, de single, je regarde ce qui se dit. Ouais, j'essaie de me mettre une certaine limite.
T'arrives à comprendre le biais cognitif qui fait que tu peux avoir 50 000 commentaires positifs et tu vas bloquer sur le truc éclaté?
Ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
T'arrives à comprendre ça? Ou ça te fait encore cet effet-là de se dire, mais je comprends pas.
Ben, je prends le recul, mais à chaque fois, je regarde quand même. Tu sais, t'as ce réflexe de cliquer sur le profil pour voir c'est qui, c'est quel genre de personne. Pas tout le temps, mais tu vois, t'as quand même ce truc qui fait elle est conne ou quoi, elle a un compris, tu vois. Mais... ouais, il y a toujours ça. Hein. Je pense que chaque artiste, ils vont pas tous l'avouer, mais chaque artiste regarde ce qui se dit et reste bloqué sur les choses méchantes ou moins flatteuses que d'autres, quoi.
Et avec le temps, tu commences à trouver une solution à tout ça?
J'essaie de... En tout cas, ma solution, c'est que je prends plus les choses à cœur comme avant. Les commentaires, j'aime quand les gens sont contents, mais quand ils sont pas contents, c'est... Moi, j'ai confiance en ce que je fais.
En tout cas, moi, je pense que cet été, les gens seront contents de danser sur Kalash et Gazo. On vous l'annonce ce soir sur Europe 1. Cet été, il y a un tube et c'est celui-là, ça s'appelle Tu le sais.
Au bigo, je peux pas trop parler. Promis, on se voit après mission effectuée. Veux, mais je peux pas t'en parler. En restant avec moi, tu peux te faire tuer. Hey, complètement matrixé, ta folie m'attire, elle me fait peur. Hey, mais Stranvi nous dit que c'est mort, faut que je me tire du secteur. J'pars, et tu le sais, c'est abusé comment tu le fais. J'merde, tu veux qu'on réessaye. J'ai un mauvais tempérament, tu le sais. Hey, hey. J'sors, et tu le sais, c'est abusé comment tu le fais. J'ai un mauvais tempérament, tu le sais, yeah. Oh, tu veux qu'on essaye, mais t'as tout oublié devant les tailles. La moula t'a fait oublier, tu ne crois qu'à la monnaie. Oh, tu veux qu'on essaye, mais t'as tout oublié devant les tailles. La moula t'a fait oublier, tu ne crois qu'à la monnaie. Tu ne penses qu'à l'argent, tu kiffes le hood. Quand ça t'arrange, le reste t'en fous. J'ai des problèmes avec des gars fous, mais j'ai des problèmes avec des gars fous. J'suis ton bad boy, toi t'es ma bad girl. Quand j'suis énervé, tu m'adoucis comme ma ganja. Mais tu serais pas là si j'avais pas de maille. Trop de haine pour te faire l'amour, obligé de te faire mal, bah ouais. Et tu le sais, c'est abusé comment tu le fais. J'merde, tu veux qu'on réessaye. J'ai un mauvais tempérament, tu le sais, hey, hey. J'sors. Et tu le sais, c'est abusé comment tu le fais. J'merde, tu veux qu'on réessaye. J'ai un mauvais tempérament, tu le sais, yeah. Oh, tu veux qu'on essaye, mais t'as tout oublié devant les tailles. La moula t'a fait oublier, tu ne penses qu'à la monnaie. J'ai compris que t'aimes le hip-hop. Que pour les vœux sur TikTok. Tu fais genre, tu craches sur le blog. Mais tu kiffes ce que ça rapporte. Que des dealers sous le bloc. T'aimes la vie de vrai bad boy. Dès que ça finit en jet, t'es d'accord. Ça finit en jet, t'es d'accord. Tu sois là ou pas, c'est pareil. Tu leur diras sûrement que je suis qu'un fumier, hey. Alors avant de me comparer, trouve un mec au lit qui pourra te faire mieux, hey. Tu te rappelleras du Banks et je t'oublierai sous un palmier. Hey, tes yeux brillent comme mes diams à côté du Glock sous le sommier. Et tu le sais, c'est abusé comment tu le fais. J'merde, tu veux qu'on réessaye. J'ai un mauvais tempérament, tu le sais. Oh, tu veux qu'on essaye, mais t'as tout oublié devant les tailles. La moula t'a fait oublier, tu ne penses qu'à la monnaie. J'ai compris.
On vient d'écouter Kalash et Gazo. Tu le sais, Kalash est dans les studios. Alors, Kalash, est-ce que tu as plusieurs surnoms comme Fally et Poupa?
J'ai plusieurs nicknames, comme on dit, plusieurs surnoms, justement, donnés par, souvent par mes fanatiques. Mais en ce moment, je préfère qu'on m'appelle Aigle.
Aigle?
Voilà.
Ok, Aigle, pas de problème. Bienvenue sur Europe 1, Aigle.
Merci.
C'est quoi les autres nicknames, Aigle?
Fally et Poupa du Cap La Merveille, El Maravilloso, El Marabi, El Pibedor, El Pichit, El Niño del Mundo, El Magnifico, El fenomeno, el fantastico, l'excellentissimo, el bellissimo, el toreador, el matador, el cantador, el professor, el protagonista, empereur 243K, Aigle.
Voilà, Aigle. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres surnoms qu'à l'âge ?
J'ai Shark, j'ai Mwakabo, j'ai Général, j'ai le professionnel, j'ai l'attaquant, j'ai le défenseur, j'ai le Zlatan, j'ai l'Ibrahimovic, j'ai le Ita. Non, j'ai Mwakabo, Général, Kalash.
C'est quand même déjà pas mal.
C'est pas mal, mais Fali, là, il m'a tué, là.
Il vient d'où, ce surnom de Kalash ?
C'est un pote qui me l'a donné, j'avais 15-16 ans, par rapport à un flow que j'avais très rapide. Et je chantais très, très fort aussi, et je suis surtout très rapide. À l'époque, c'était bien de performer, de montrer que tu pouvais chanter très vite, tu sais, comme Busta Rhymes, Twista, Admiralty, tu vois.
Est-ce que toi, t'es de la génération où, pour faire ses preuves, il fallait arriver dans un club, prendre le micro et impressionner les gens.
Ouais.
Et cette génération-là, la musique était mélangée avec les histoires de rue.
Ouais.
Et c'était des quartiers souvent qui se retrouvaient dans ces clubs.
Ouais.
Et en fait, faire de la musique, c'était pas faire que de la musique.
C'était représenter. C'est ça le mot, en fait. Quand on dit représenter, c'était vraiment représenter une idée, un groupe, un quartier, une ville. Pas un parti politique, mais presque. On parlait souvent du FN, tu vois. On brûlait le FN, d'ailleurs, à ce jour. Mais ouais, c'était surtout représenter et performer. Et que c'était comme une arène. Il n'y avait pas le côté encore star system. C'était vraiment, il fallait que les gens se disent « Oh putain, la voix, le flow, quel lyrics. » C'était plutôt ça.
Est-ce que ce mot « représenter », il t'a pas fait du mal ?
Pas du mal, mais il a eu un poids. Il a un poids. C'est-à-dire, même quand je demande rien, si je fais une erreur, on dira « Il nous fait honte. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Pas toi. » Toi, comme si j'avais été élu. Pas dans les urnes, mais dans le cœur des gens. Donc c'est pas du mal, mais c'est un poids, et je dois l'accepter, hein, parce que j'ai choisi de continuer, donc je dois l'accepter.
Et c'est aussi une bénédiction, il y a des gens qui te portent.
Voilà, c'est une bénédiction, et c'est vrai, comme dans Spider-Man, quoi. Grand pouvoir, grande responsabilité.
Vous êtes dans Verveine Underground, on continue à parler avec Kalash.
Reste toujours underground.
Mouloud Achour, 20h, 22h.
Verveine Underground.
Sur Europe 1.
Vous êtes toujours dans Verveine Underground et avec Kalash. Comment t'expliques qu'au deuxième tour des élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête en Martinique avec 60,87% des voix, 69,6% en Guadeloupe, 60,7% en Guyane et 59,57% à La Réunion?
C'est incroyable, mais je sais que c'est sous le coup de l'émotion. C'est comme plein d'enfants qui boudent. Genre, on va parler franchement, Mélenchon n'est pas passé, on veut plus de Macron, ah, allez, on fait un coup. Mais c'est sur le coup de l'émotion, je pense. Et c'est inadmissible, mais c'est le coup de l'émotion, et ça peut se traduire dans la souffrance que subissent les Antillais, l'Outre-mer, le traitement, par rapport à plein de choses, à la vie chère, aux problèmes d'eau, aux problèmes de terre empoisonnée au chlordécone, aux manifestants enfermés. C'est un cri d'alarme, c'est un mauvais choix, mais c'est... Quand t'arrives dans le chaos, il y a beaucoup de mauvaises choses comme ça qui peuvent arriver. Et heureusement qu'elle n'est pas passée. Mais ça fait partie du chaos, quoi.
En quoi est-ce que le quinquennat de Macron a été dévastateur ? Parce que c'est un vote de colère. Là, tu viens d'énumérer certaines choses. En quoi ça a été dévastateur au point qu'on se tourne vers Marine Le Pen ?
Rien ne s'est passé dans le plus. Tout s'est passé dans le rouge. C'est-à-dire, on a eu Gilets jaunes, on a eu... je parle de la France. Hein. Et si je dois parler Ukraine, Covid, traitement bizarre, choix de sanitaire qui change chaque semaine, promesses qui changent chaque semaine. Et si c'est pour parler des Antilles, ajouter à ça la vie trois fois plus chère, l'empoisonnement, l'omniprésence des descendants de colons dans le business. Donc c'est vraiment, on se dit, on a tout qui nous tombe dessus. Et le Covid a fini d'éteindre la situation.
Parce que c'est important de parler de la vie chère aux Antilles.
Hein,
la vie est très très chère.
Méga chère.
Même l'eau potable est de plus en plus dure à trouver. Il y a des problèmes d'eau potable.
Ouais.
Comment est-ce que, en France, parce que ça fait partie de la France, qu'on arrive à laisser ça ? Comment réagit la population ?
La population, déjà, commence à se soulever et se soulève de plus en plus jeune, ce qui est nouveau. Les jeunes sont de plus en plus concernés par les problèmes sociaux, les problèmes... écologiques, les problèmes politiques, ils suivent de plus en plus ce qui se passe. Donc, je pense que là c'est pour ça qu'il y a des réactions aussi violentes quand ce sont des manifestations, parce que ce sont des jeunes qui veulent pas subir ce qui s'est déjà passé et qui ont l'impression que c'est tout ça, on tourne en rond, quoi. C'est-à-dire, on nous parle de Covid, mais c'est notre problème aux Antilles le plus grave, c'était pas le Covid. Donc qu'on mette des restrictions, des couvre-feux si longs comme en Guyane de 2 ans presque. Les gens se disent, mais il y a vraiment d'autres choses sur lesquelles on devrait mettre l'accent, comme la vie chère, ça c'est vraiment un problème énorme. Le chômage, une délinquance incroyable, un nombre d'armes qui circulent dans les rues comme à Bagdad. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment un ras-le-bol et ça, les Antilles peuvent exploser d'une façon qu'on n'a jamais vue avant.
Et est-ce que Marine Le Pen aurait été la solution ?
Je pense que Marine Le Pen n'est même pas une solution à elle-même. C'est jamais une solution, Marine Le Pen. C'est vraiment, je pense, sur le coup de l'émotion. Allez, on est fâché, on va. Mais Marine Le Pen, c'est inconcevable que cette femme dirige quoi que ce soit.
Est-ce que toi, dans ton entourage, t'as des gens qui t'ont dit, moi, je vais voter Le Pen ?
Bien sûr. Mais c'est comme des gens qui peuvent me dire, je vais plus te voir. Un exemple, pour rester poli. Mais c'est des coups de colère. Et après, ils reprennent leurs esprits. Mais il y a des gens qui me l'ont dit et qui l'ont fait, quoi. C'est quand même assez fort que Jean-Marie Le Pen n'ait pas réussi à atterrir en Martinique parce que des militants se sont allongés sur la piste d'atterrissage. Et 15 ans après, sa fille soit accueillie en Guadeloupe, par exemple, au son des tambours. Donc il y a des choses... On vit un moment de l'histoire dans le monde et aux Antilles qui est incroyable. Marine Le Pen qui arrive en tête aux Antilles, c'était inimaginable.
Une des préoccupations numéro un des Français, c'était le pouvoir d'achat. On l'a vu pendant cette campagne. Et une des autres préoccupations, c'est l'environnement. Toi, t'es père de famille. Est-ce que ça fait partie des choses qui te concernent et qui t'inquiètent ?
Ben, de plus en plus, mais c'est des choses que j'apprends parce qu'on ne m'a pas élevé à faire attention à l'environnement. Il y a des choses que j'apprends par rapport déjà à la consommation, je sais pas, d'animaux marins, la pêche de certains poissons. On y prend des dauphins, des requins, tu sais, plein de choses comme ça. Même la voiture que je roule, quand je l'achète, je ne pense pas à l'environnement. Et c'est après que je prends conscience que chaque personne a une responsabilité. Ou je peux aller plus loin, les bijoux que je porte, des diamants, à un moment tu te dis d'où viennent-ils ? Ça, c'est des réflexions que j'ai avec le recul et l'âge, si je puis dire. Mais c'est des trucs.
En tout cas, ils sont très beaux, tes diamants.
Merci.
Est-ce que tu peux me les décrire ? Ils sont magnifiques.
C'est des diamants pour la plupart en VS1, comme on dit. Et j'ai plusieurs bijoutiers en France, à Miami, en Martinique. Et moi, j'ai toujours porté des bijoux, l'or, les diamants, c'est des choses que... C'est culturel aussi chez nous, surtout l'or.
Est-ce que ça attire des jalousies, des rivalités quand on porte des diamants ?
Ah, ça attire la mort. Ça attire la jalousie, la mort, l'envie. Ça attire les amis, entre guillemets, des amis intéressés. Je pense pas que les diamants soient quelque chose qui attire de bonnes choses. C'est joli dans les clips. Moi, j'aime les bijoux, donc même à moi, quand je les porte seul, ça me fait plaisir, mais je pense pas que les diamants attirent du bon.
Il y a des gens qui ont essayé de te braquer tes diamants, déjà ?
En idée, oui.
En idée ?
En idée, oui.
Et quoi, tu repères qu'en idée, ils y pensent ?
Quand on te tire dessus.
On t'a déjà tiré dessus ?
Ouais, on m'a tiré dessus.
Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ?
Je pouvais pas aller très loin, parce qu'il y a une enquête en cours.
Est-ce que tu peux ne pas nous raconter cette histoire ?
Voilà. Il y a eu quelques histoires assez violentes. Il y a des enquêtes en cours qui cherchent les personnes et des enquêtes sur moi aussi, puisque j'ai dû me défendre.
Parce que souvent, quand des artistes rappent la rue, c'est dans le studio. Toi, quand on écoute ta musique, c'est réel.
C'est réel. En France, il y a une très grande violence. Mais aux Antilles, vu que c'est là que je connais et que je maîtrise, c'est plus petit. On se connaît tous. La violence est vraiment quotidienne, souvent gratuite. Souvent regretté après. C'est-à-dire, il y a des mecs qui tuent des mecs et qui voulaient pas. C'est une erreur ou c'est une balle mal placée. C'est-à-dire, c'est vraiment la une des bandades, quoi. Beaucoup, beaucoup d'armes, très jeunes, consommation de drogue dure, très jeune. Donc, la tête pas forcément en place et les conflits se règlent de façon plus radicale qu'avant, quoi.
Qu'est-ce qui, toi, t'as mis la tête en place ?
Moi, c'est la foi. Vraiment, c'est la foi. C'est la crainte de Dieu de ne pas faire quelque chose qui pourrait me gâcher la place après cette vie, perdre cette place.
On a reçu DC's dans cette émission qui a brisé un tabou qui était celui des pressions qu'on met autour des artistes, notamment du racket. Et lui, il raconte que carrément, des gens sont venus à la maternité quand sa femme venait d'accoucher pour lui racketter de l'argent.
Ça, c'est incroyable déjà. Mais oui, c'est quelque chose... Dans le milieu qu'on connaît tous, on sait à qui ça arrive, on sait qui le fait. C'est les artistes, les gens de, entre guillemets, de pouvoir, à forte popularité, sont victimes de ça dans tous les pays, je pense. Mais en France, ouais, c'est très, 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 très récurrent. Surtout, je pense, dans le rap. Mm. Surtout dans le rap.
Toi, t'as vu des artistes qui t'ont dit « j'ai plus de vie, je suis... »
Des artistes qui ont déménagé ou qui sont esclaves d'amendes, qui doivent payer par mois des pourcentages à des gens qui ne font rien pour eux, qui ne les aident en rien, qui sont juste des cauchemars dans leur vie, quoi. Ouais, j'en connais beaucoup. Hein.
Et quoi, comment toi, tu t'es protégé de ça, en fait ?
Par rapport à la France, je pense qu'il y a un recul, déjà. Je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici. Donc mon souvent, le racket vient de l'entourage proche. Mm. Je n'ai pas d'entourage proche ici. En tout cas, je n'ai pas grandi avec de gens ici. Et moi, je me protège de ça. Je pense que j'ai une bonne étoile et je pense aussi que... Bon, certains connaissent certaines réactions, quoi. Mais je pense que j'ai une bonne étoile, on va dire. Mmh. Ouais. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Si une armée vient sur toi, tu peux être qui tu veux. Tu vas devoir faire ce qu'il faut, quoi.
J'aimerais qu'on écoute This Is, qui nous parle de la fragilité et de la virilité.
Quand t'es un garçon, que t'as entre 15 et 20 ans et que tu grandis dans un quartier, ou même pas forcément dans un quartier... Tout ce rapport justement à la virilité, à toutes ces choses-là, il y a aussi le côté un petit peu de bomber le torse, de tu montres pas tes failles, être vulnérable, c'est pas du tout cool, c'est pas du tout stylé. Donc du coup, c'est des sujets qui sont assez difficiles à aborder parce que tu passes tout de suite pour un fragile, enfin tous ces mots un peu qu'on entend depuis longtemps.
Et c'est pour ça que moi je pense qu'à l'âge que t'as fait ton album le plus hardcore à ce jour, en ayant montré tes failles.
Yeah. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a plein de petits détails comme ça que certaines personnes ne voient pas quand tu grandis dans un certain milieu. Même ta couleur de peau peut être vue comme une faiblesse. Mmh. C'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple les light skin ou bien les gars un peu trop mignons, beaux. Ceux qui doivent des fois sortir l'écrou le plus. Je connais plein de gars très beaux, que les femmes trouvent très beaux et qui sont devenus les pires criminels par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a voulu les bolos. Leur montrer, ah, toi, t'es le mignon, et ce sont devenus des mecs qui manient la gâchette comme jamais, quoi.
Alors, pour toi, quel âge ça devrait être quoi, la masculinité ?
Le premier truc de la masculinité, protéger les femmes. Mmh. Premier truc. Protéger les femmes, les sœurs, les mères, les tantes, les inconnues. Que quand tu sois quelque part, que les autres hommes sachent que tu pourras pas devant moi faire ou dire quelque chose aux femmes. Mmh. Je pense que c'est ça le premier truc. Et deuxième truc, assumer le bon comme le mauvais.
J'aimerais te faire une proposition. C'est qu'on reste tous ensemble. Ouais. Et comme tu dis dans le morceau, on a commencé au fond ensemble, toujours en forme. Ouais. On écoute ensemble de Kalash.
Des fois je repense à ma vie, à qui me tenait compagnie. J'ai cru qu'il n'y avait que des vrais. Tout allait bien tant que le cap est les frais. On a commencé au fond ensemble, au fond ensemble, toujours en forme, manique. L'essentiel est qu'on s'ensemble, l'essentiel est qu'on s'ensemble. Et solo dans la nuit, j'ai pas sommeil, je médite. Je repense à ma vie, qui m'a aimé, qui m'a aidé, je fais le tri. Et solo dans la nuit, j'ai pas sommeil, je médite. Je repense à ma vie, qui m'a aimé, tous tes appels, je les ai vus. On avait juré de s'en aller. On avait juré de bombarder. On avait juré de s'en aller. Sur le terrain, on sait qui joue. J'ai des yeux dans le dos comme un hibou. On a réussi quand c'était qui tout double. On s'est montré beaucoup de bijoux. Et ces bitches nous veulent. Et quand on est seul, on peut pas parler sur la mévou. Trahir l'équipe, faut être ses faux. Dans le thorax comme Zézou. Leurs paroles vont passer sous. J'me méfie de leurs bisous. J'lève mon verre à l'avenir dans mes reins, un séco. J'attends patiemment le jour du grand pardon comme Kipou. Et solo dans la nuit, j'ai pas sommeil, je médite. Je repense à ma vie qui m'a aimé. Toutes tes affaires, j'les ai vues. On avait juré de s'en aller. On avait juré de bombarder. On avait juré de s'en aller. On avait juré de bombarder comme un géant, sans parler mal.
On On vient d'écouter Ensemble de Kalash et on est ensemble avec Kalash. On parle de Moi Kamoun qui est ton gros morceau avec Damso. Et je trouve qu'il y a une injustice sur ce morceau.
C'est quoi?
C'est que souvent on parle des artistes qui sont au top, qui battent des records, et il n'y a jamais Kalash.
Non, jamais.
Alors que je le disais en préambule, tu fais partie des plus grosses stars françaises. Je pense que tu marches dans la rue, c'est l'émeute.
C'est vrai qu'il n'y a pas de... on ne parle pas de mes records dans les médias qui aiment rappeler les records de mes collègues comme Nino, PNL, Damso ou autres. On parle pas de ce que moi Kamoun est ou on ne reconnaît pas mon importance dans ce morceau. Ou, par exemple, ils disent oh, c'est grâce à Damso, alors que le refrain, c'est moi qui le fais. Ils diront pas qu'il a 5 diamants. C'est des choses qui sont vraiment, je pense, dues à un manque de considération ou juste de culture de la musique ou des artistes antillais. Donc c'est toujours il y a une hype qui n'existe pas encore autour des artistes d'outre-mer, quoi.
Alors que quand on prend des légendes comme Kassav, ils remplissaient des salles de concert dans tous les sens.
C'était guichet fermé. Il y a même pas 2 ans, c'est 40 000 personnes, quoi.
Quand Jacob de Varieux est décédé, il n'y a pas eu un hommage national.
Ah, j'étais à Saint-Martin, ça je savais pas par contre. C'est très grave. C'est très grave qu'il n'y a pas eu d'hommage. Je ne savais pas.
Ouais, c'était un Johnny. C'était quelqu'un d'aussi important.
Tout à fait. Aussi important et même plus influent. Quand tu es un groupe qui a créé un style de musique, tu as créé le zouk, c'est comme si tu es un groupe qui a créé le reggae. C'est-à-dire que tu es immortel. Tu peux mourir à 100 ans ou à 40 ans. Tu fais partie de l'histoire et de l'immortalité, de l'éternité. Comme Patrick Saint-Éloi, c'est des gens qui devraient être, comme on dit, au Panthéon, quoi.
Et pourquoi est-ce que le zouk a toujours cette connotation rigolote alors que...
Je pense que c'est un cliché qui a été entretenu par certains choix qui ont été faits de certains médias de prendre le quota. C'est-à-dire la compagnie créole, c'est les doudous, c'est les timales, c'est les antilles. Plein d'expressions comme ça qui se sont installées dans le jargon normal. J'ai même des potes ici que je me suis fait ici, à qui je fais du sport, qui me disent « Mais en fait, quand toi les timales, et c'est des trucs que je déteste qu'on me dise, tu vois, et je leur explique, les gars, ça ne se dit pas. » Tu vois, je vais pas dire à un frérot, ta soeur, tu vois, il est ni à fou, tu vois, c'est des expressions, on parle pas comme ça. Donc je pense que c'est des quotas qui ont été installés. On a dit la compagnie créole, ce sera eux. Après, on a dit, il y aura un grand espace, ce sera Admiralty. Après, ce sera Colonel Réel. Tu vois, c'est des choses que. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas eu deux Admiralty en même temps, alors qu'il y a. Pas au niveau du style, mais il y a deux Nino. Il y a deux dames, tu vois, il y a un Rolsan, un Vald, mais là, il n'y a pas de Kalash, par exemple.
Mais il y a eu cette tentative, pareil, sur le rap. Là, par exemple, pour parler du Zouk, on a souvent dit la compagnie créole ou le côté marrant comme Francky Vincent, mais dans le rap, pendant des années, c'était des groupes rigolos ou des trucs comme ça qui marchaient. Des trucs plus légers. On a eu Fatal Bazooka, on a eu tous ces trucs-là.
Ah, c'est vrai qu'eux, ils ont eu une exposition.
Ouais, Benny B, enfin, tu vois, il y a toujours eu le...
La caricature.
Ouais.
C'est la caricature, mais je sais même pas si c'est... De la faute des artistes ou...
Non, je pense pas.
Non, je pense plutôt que c'est la faute. C'est dû plutôt à un choix. Je sais pas si c'est médiatique ou sociétal, mais c'est un choix que ce sera ça qui va représenter ce style.
C'est pour vider une culture de sa substance ?
Je pense pour enlever une certaine crédibilité et empêcher qu'un certain nombre de messages soient dit, soient passés.
J'ai une question, Kalash. Pour toi, c'est quoi la richesse ?
Moi, ma réponse est simple maintenant. Avant, j'aurais réfléchi, mais la richesse, c'est la santé mentale. Ça, c'est la... J'ai déjà beaucoup réfléchi à est-ce que si je rencontrais quelqu'un qui me disait je te vends la santé mentale contre ta carrière tout de suite, est-ce que je ne dirais pas tout de suite oui. Genre je laisse tomber tout pour être sûr que je me sente bien, que je me réveille bien, que je marche bien, tu vois. C'est ça pour moi, c'est vraiment quand je regarde les gens, je regarde par exemple le football, quand je parle avec des amis footballeurs, je le regarde sur le terrain, c'est là que je ressens de l'envie. Je me dis mais quelle puissance, ça c'est de la forme. La forme pour moi c'est la meilleure richesse. Avoir la forme, ça c'est la meilleure richesse.
J'aimerais qu'on écoute la définition de la richesse par Alpha Blondy.
La richesse c'est avoir des gens qui vous aiment déjà, et puis avoir des gens que vous aimez, et puis avoir votre petit pain quotidien, c'est tout. Et puis la richesse, la foi en Dieu, le Créateur, c'est une richesse illimitée. Voilà, aimer les gens, c'est une richesse qui n'a pas le prix.
Kalash, est-ce que tu es d'accord avec Alpha Blondy ?
C'est une vision. Je suis d'accord avec cette vision, mais moi, je mets la santé au-dessus de tout. je mets la forme et la tranquillité et la paix au-dessus de l'amour des autres, puisque la paix englobe tout ça. Mais je peux être en paix seul aussi.
J'aimerais qu'on écoute un extrait de Kalash, Only God Can Judge Me.
Seul l'éternel veut me juger, ok. Ils ne connaissent pas ma vie ni le fond de ma pensée. Le parapluie, ils ne pourront pas me tromper. Je me vois la tête comme le seul mot à sauver. Seul l'éternel veut me juger, ok. Ils ne connaissent pas ma vie ni le fond de ma pensée. Le parapluie, ils ne pourront pas me tromper. Je me vois la tête comme le seul mot à sauver.
C'est quoi le rapport que t'as avec Dieu, Kalash?
C'est un rapport qui a évolué et qui a changé. J'ai grandi dans une famille religieuse, père théologien. Avant d'être prof de philo, il a étudié la théologie en Jamaïque. Il est devenu pasteur. Mes oncles étaient presque tous pasteurs du côté de mon père. Donc j'ai grandi au temple adventiste, le vendredi soir sabbat, samedi l'école du sabbat pour les petits, jusqu'à 18h. Pas le droit d'allumer la télé, etc. École religieuse jusqu'à un certain âge. Et ensuite, toute ma famille a vrillé. C'est-à-dire, tout le monde s'est éloigné de la religion, pas de la foi, à part pour certaines personnes comme mon père qui, à un moment, ne croyait plus en Dieu. Donc, c'est des choses qui m'ont marqué quand tu as reçu une éducation si proche de la Bible et que ton père qui te l'a donné te dise « j'y crois plus ». Donc, ça, tu remets en question... le nom de Dieu, quel est-il, lequel est-ce qui est le bon, est-ce que j'y crois, est-ce que c'est ça qui me maintient, est-ce que je dois avoir peur, est-ce que j'ai le droit finalement de me poser des questions, parce que dans la Bible, tu n'as pas le droit de douter, est-ce que le doute c'est péché, donc plein de choses comme ça. Et maintenant, je me suis établi ma foi, comme le respect des autres, et au maximum, c'est vraiment, je suis humain, mais au maximum, essayer de penser aux répercussions et à ne pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Quoi.
Et alors, est-ce que le doute, c'est péché?
J'y pense encore. Toutes ces semaines-ci, je me dis que est-ce que remettre la puissance de ce en quoi tu crois, c'est péché? C'est-à-dire, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi tu laisses ça se faire? Mais je sais pas. J'espère pouvoir continuer à croire. C'est-à-dire, ne pas arriver à un niveau où je me dis c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'hyper puissant qui laisse tout ça de choses arrivées. Mais je n'y suis pas encore. Je ne pense pas. J'espère ne pas y arriver.
On ne connaît pas les raisons, en tout cas.
On ne connaît pas les raisons. Voilà. C'est ça le truc. Pourquoi? Ouais. Il y a tellement de gens qui doivent se demander pourquoi.
Il faudrait peut-être aussi se demander comment.
Pourquoi et comment?
Et peut-être que si on n'a pas la réponse à comment, on peut se dire que...
C'est la vie.
Exactement. Et c'est quoi cette croix que tu as tatouée entre les deux yeux?
Ça fait partie de ma foi. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église. Mais je crois au sacrifice. Voilà pourquoi j'ai la croix, voilà pourquoi j'ai une croix dans mon cou, j'ai une croix dans mon dos. La croix, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est le sacrifice d'un fils, d'un père qui donne son fils. C'est symbolique, c'est le poids que je porte. Chacun porte sa croix. La croix n'est pas seulement liée à Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient punis et condamnés, exécutés sur la croix. Jésus-Christ a été crucifié avec deux autres personnes. Donc je pense que je porte une croix, que beaucoup de gens portent une croix. Chacun porte sa croix, en vrai. Certaines sont plus lourdes que d'autres, certaines sont en bois, certaines sont en fer, certaines ont des épines. Hein?
Qu'est-ce que toi tu retiens du sacrifice de Jésus, des raisons pour lesquelles on l'a tué? Parce que je sais que tu te poses ces questions.
On le méritait pas. Mais ça sauve des vies, ça sauve des gens, ça donne des exemples. Et je pense que le sacrifice de Jésus, car moi j'y crois, je pense que c'est la preuve d'amour ultime de donner son fils. Et après, je me dis, mais comme tu sais que t'es Dieu, tu vas le faire revenir. Donc, tu vois, c'est des vieux questionnements comme ça. Tu dis, bon, faut pas que j'aille trop loin.
Mais ça dit quoi de l'homme qui tue celui qui prône l'amour?
Mais je pense que l'homme n'avait pas encore compris qui ils avaient en face d'eux. C'était une période, je pense, où les hommes voyaient plutôt ça comme de la magie ou comme quelqu'un de dangereux, mais qui n'avaient pas encore la crainte. Je pense que c'est la crainte qui a empêché de le tuer. Là, ils se sont sentis hyper puissants, au-dessus de tout. Mais en fait, ils se sont mis au-dessus de Dieu, selon eux. Donc je pense que c'était de la folie, comme voter Le Pen aux Antilles. C'est exactement la même chose.
Est-ce que toi, dans ta vie d'artiste, tu t'es dit, je comprends pas là, je suis juste en train de faire le bien. Les gens réalisent pas ce que je suis en train de faire. Je suis mon propre patron. Je fais travailler des gens. Je nourris une famille qui nourrissent des familles. Enfin, on sait ça de toi, Kalash. On sait que c'est quelqu'un qui est très impliqué, qui fait vivre énormément de monde. C'est pas que ta réussite, c'est très collectif. Et qu'on te dise, qu'on te crucifie, en fait. Comment toi, tu vis ça?
Ben, je vis ça comme... Au début, je vivais ça très mal et je trouvais ça injuste. Mais là, je vis ça comme... c'est normal. C'est-à-dire, c'est le prix à payer.
C'est la croix à porter.
C'est la croix à porter. Pour moi, c'est devenu normal. C'est-à-dire, si c'est normal que ce soit toi, que ce soit toi à qui ça arrive, que en qui les gens aient le plus confiance et qui les gens ressentent plus de déception quand tu fais un petit péché parce que t'as endossé une responsabilité supérieure à d'autres. Et je pense que ouais, je trouve que c'est normal. C'est humain.
C'est quoi la dernière chose que t'as demandé en prière ?
En prière, j'ai demandé le sommeil. Hier soir.
Ouais.
J'ai demandé si je pouvais dormir.
Qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?
De chercher à dormir, ça m'empêche de dormir. Et les médicaments ne marchent pas. Et pourtant, je suis bien entouré. J'ai un bon album. Les interviews comme celle-ci me font du bien.
Merci.
Mais le soir, j'ai du mal à dormir.
T'as un bon oreiller ? Mort de forme ?
J'ai un bon oreiller. Clara, je dors bien aussi sur elle. J'ai des chats, mais c'est nouveau. Je détestais les chats.
Les chats, c'est très bon pour l'anxiété, tu sais.
Mais finalement, oui. Je détestais les chats.
Tu sais que c'est prouvé scientifiquement que le ronron des chats te calme.
Ouais.
C'est un très bon anxiolytique.
On a deux chats qui dorment sur sa tête, pas sur la mienne, et ils ronronnent. Ouais. Et je vieillis, 33 ans, j'ai deux chats. avant, j'avais des pitbulls.
33 ans comme l'autre.
Comme Jésus.
J'aimerais qu'on écoute un morceau que tu as choisi. C'est un morceau sublime qu'on adore écouter dans Verveine Underground. C'est Charles Aznavour avec À ma fille.
Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas.
On vient d'écouter Charles Aznavour, À ma fille, morceau choisi par Kalash. C'est la chanson d'un père qui écrit sur sa fille qui quitte le foyer. Kalash, t'as deux enfants.
C'est horrible.
T'y penses ?
Cette chanson, quand je l'ai écoutée, j'ai mis en image. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'étais à Porte d'Italie. Et j'écoute les paroles et j'ai imaginé ma fille partir avec un homme qui la rendra, avec les mots qu'il dit, c'est vraiment...
Les mots qu'il dit sont les suivants. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert, je rentrerai chez nous où tu ne seras pas.
Il a tout dit, en traînant le pas. C'est-à-dire, j'y vais à contre-cœur, mais heureux pour ma fille. C'est le terme, je suis jaloux de ma fille. C'est-à-dire, j'aime mes enfants de la même façon, mais ma fille, c'est vraiment très très particulier, mon affection et ma sensibilité envers ma fille. C'est-à-dire, je pense à des choses qui ne sont pas encore prêtes d'arriver, quoi.
Ouais.
À son mariage, est-ce qu'un jour un homme va la rendre malheureuse ? Est-ce qu'un jour un homme va lui manquer de respect ? Je pars très loin.
T'as un message adressé à un homme qui pourrait la rendre malheureuse ?
Repose en paix.
Kalash, quand on écoute ta sélection musicale, il y a évidemment... Il y a du Bounty Killer, il y a du Hypescartel, mais il y a du Charles Aznavour. Et quand on voit aujourd'hui ta popularité, on se dit que la chanson française, c'est aussi Kalash, parce que t'es français, tu chantes en français. Est-ce que toi, c'est un répertoire auquel t'aurais envie de te frotter ?
Oui. Je sais pas si actuellement, parce que je ne suis pas ce qui se fait, si ce mot existe encore, variété française, mais quand j'écoute les Cabrel, les Goldman, ce que Goldman écrit, ce que Cabrel écrit, Pascal Obispo, David Hallyday, ce qu'il a écrit pour son père, c'est vraiment des trucs auxquels je m'identifiais et je m'identifie encore au niveau de la mélancolie, au niveau de l'image, au niveau du chant, au niveau des instrus. C'est le mot variété française a été, je trouve, trop réduit. Ils l'ont utilisé comme réducteur, c'est un chanteur de variété, mais la variété française. Je trouve que c'est l'un des styles les plus classe qui existent. Avec même les artistes dans leur attitude, dans leur posture, dans leur charisme. les vivants ou ceux qui nous ont déjà quittés, je trouve, c'est des... on a beaucoup de monuments en variété française.
Parce que quand on voit, toi, ce que tu es capable de faire avec ta voix, toutes les tonalités que tu peux atteindre, on se dit que tu peux chanter du Balavoine sans problème, en fait.
J'aime beaucoup Balavoine.
Ouais.
Je regrette des fois de ne pas avoir connu certaines personnes comme Balavoine ou une chanson de Goldman, par exemple. Mais c'est des regrets pas amers, mais j'aurais bien aimé avoir été à cette époque.
En tout cas, Kalash, avant de te laisser, déjà, je te tiens à dire que ce nouvel album, c'est ton meilleur album. Je te le dis.
Merci, Moulin.
Vraiment.
Merci.
Et que là, le but, tu as une mission en sortant de cette émission, c'est que tu entres au patrimoine de la chanson française. C'est-à-dire que tu as cette responsabilité. Là, aujourd'hui, vous êtes la nouvelle pop. Vous êtes la nouvelle... pas la nouvelle variété, mais vous êtes le genre le plus populaire. Et toi, quand on voit tous les gens qui écoutent ta musique, il faut que les autres, mes collègues qui ont des radios comme Europe 1, enfin les autres radios, comprennent que Kalash, s'il est sur Europe 1 ce soir, c'est qu'il fait partie de ce patrimoine.
Grand merci.
Merci à toi.
Grand merci.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter ?
De rentrer au patrimoine, comme tu as dit.
Voilà.
Et de bien dormir.
Eh ben, je te souhaite de bien dormir.
Merci.
Je te filerai des podcasts si tu veux bien dormir.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous, Kalash. L'album Tombolo est disponible partout. Tu vas partir en tournée dans toute la France, 19 octobre à Montpellier, 17 novembre à Rennes, 25 à Bordeaux et Accor Arena de Paris le 29 novembre 2022. Prenez vos places, je pense que ça va être complet très très vite. Verven Underground revient dans un instant avec notamment Damso.
Je crois que je me rends mollet.
Ou encore un petit kiff avec The Turtles. C'était Kalash dans Verven Underground. On a tout de suite sur Europe 1.
Verven
Underground.